La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Beaucoup de questions dans la presse russe ce matin sur un probable empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny.
Et vous avez raison, on va dire probable, hein, car pour le moment, comme le rappelle bien d'ailleurs le quotidien Kommersant, les médecins de l'hôpital de Omsk en Sibérie, où le plus en vue des dissidents russes est hospitalisé dans un état très grave mais stabilisé, nous dit-on. Ces médecins donc réservent leur diagnostic 24 heures après ce soudain et terrible malaise qui a terrassé Alexei Navalny dans l'avion. Il ne confirme pas, ces médecins, la piste de l'empoisonnement qui est pourtant, on va le voir, dans tous les esprits. Ce qui est sûr, c'est que Navalny a bu un thé ce jeudi matin avant de monter dans l'avion qui devait le ramener à Moscou, et quelques minutes plus tard, il était pris de crampes d'estomac, convulsé en d'atroces râles d'agonie, perdait connaissance, l'avion faisait demi-tour et l'opposant russe numéro 1 se retrouvait donc hospitalisé en réanimation, soins intensifs, dans le coma, sous respirateur à l'hôpital sibérien d'Omsk. 24 heures plus tard donc, l'agence Interfax nous dit que l'état de santé de Navalny n'a pas changé, pas plus que le diagnostic officiel qui n'évoque pour le moment, sans la confirmer, qu'une possible intoxication à une drogue hallucinogène encore indéterminée, même si un média russe en ligne, Baza, très présent sur l'application Telegram, évoque, lui, le GHB, connu en France comme la drogue du viol.
Bon, pour le moment, ça fait quand même bien peu de certitude, Camille.
Oui, c'est vrai, mais d'après Ivan Davidov, à lire sur le journal en ligne République, quand on parle d'un opposant aussi exposé que Navalny en Russie, eh bien forcément, le suspect numéro un, c'est le Kremlin. Et la piste privilégiée, c'est celle de l'empoisonnement politique. Il ne saurait y avoir de présomption d'innocence pour l'État russe, ajoute le journaliste d'opposition, tant il y a eu de précédents ces dernières années, et tant l'appareil d'État autour du président Poutine a montré peu de volonté à faire la lumière sur ses précédents opposants empoisonnés. Dans l'édito publié hier soir par le Financial Times, on lit que dans aucune autre soi-disant démocratie, la carrière d'opposant politique n'est aussi dangereuse et potentiellement mortelle que dans la Russie de Vladimir Poutine. La violence politique y est quasi culturelle, comme nous le rappellent les noms de Boris Nemtsov, Vladimir Karamurza, Anya Politkovskaya, pour ne citer que les plus connus de ces dissidents assassinés ces dernières années. Mais l'édito du Financial Times s'interroge tout de même. L'emprise du Kremlin est telle sur les médias russes, sur la justice et sur le système électoral qu'Alexei Navalny ne représentait finalement pas une réelle menace politique pour le pouvoir de Vladimir Poutine. Les reporters de l'agence Reuters, qui suivaient d'ailleurs Navalny dans son déplacement en Sibérie ces derniers jours, racontent cette étrange scène. L'opposant rencontrait mercredi dans la ville de Tomsk de jeunes partisans qui lui ont demandé texto « Mais comment est-ce que ça se fait que vous soyez encore en vie ?» Navalny s'est amusé de cette question, il s'est excusé sur le ton de la blague de ne pas s'être déjà fait tuer, mais il a surtout expliqué à ses supporters que, je cite, « sa mort ne serait vraiment pas une bonne chose pour le Kremlin, qu'elle ferait de lui un héros et que c'est bien la dernière chose que souhaite finalement Vladimir Poutine. »
Cette lucidité prophétique d'Alexei Navalny quelques heures avant son possible empoisonnement, elle hante aujourd'hui la presse russe.
Et en particulier, il faut bien le dire, la presse d'opposition, hein, qui ne se satisfait pas du cliché un peu trop facile d'un Poutine qui commanditerait froidement derrière son bureau l'assassinat de son principal opposant. Dans son billet publié tard dans la soirée d'hier sur République, le journaliste dissident Oleg Kachin imagine à l'inverse un Vladimir Poutine furieux quand il a appris la nouvelle hier, cherchant parmi ses proches, oligarques ou hommes politiques, lequel a bien pu commettre une bêtise pareille. Il faut dire qu'Alexei Navalny et sa fondation, qui révèle régulièrement des scandales de corruption en haut lieu, se sont fait ces dernières années de nombreux et puissants ennemis. C'est sans doute parmi eux qu'il faudra chercher la source du mal mystérieux qui terrasse l'opposant depuis hier. Ce qu'en conclut Oleg Kachin, c'est qu'à défaut d'être lui-même le commanditaire, le Kremlin connaît parfaitement l'identité de ce dernier, mais il ne la révélera pas. C'est la règle du milieu, silence et loyauté. Poutine pas coupable, mais Poutine complice, donc, est finalement bien coupable d'entretenir l'impunité pour les assassins et les empoisonneurs.
Et puis on part en Chine, Camille, où un déluge continue de s'abattre sur le centre du pays.
Oui, et la principale conséquence, ce sont des inondations massives qui touchent depuis près de 2 mois les régions du Sichuan, du Hunan et du Hubei, des régions qui constituent le bassin du grand fleuve Yangtze. Des dizaines de milliers de riverains du cours d'eau ont dû être évacués ces derniers jours, nous dit la chaîne américaine CBS, tant leur vie était menacée par l'impressionnante montée des eaux. La mégapole de Chongqing Chongqing est inondé. Les dégâts sont considérables. Des joyaux du patrimoine chinois comme le Bouddha géant de Leshan ont littéralement les pieds dans l'eau. Mais le plus inquiétant, nous dit The Guardian, c'est ce qui concerne le grand barrage des Trois Gorges. Vous savez, la plus importante retenue d'eau du monde qui avait été inaugurée après 12 ans d'un chantier phénoménal en 2003. Et ce barrage des Trois Gorges qui n'avait jamais vu son niveau monter si haut. Hier, le barrage a dû encaisser un record de 99 000 mètres cubes d'eau à la seconde qui déferlait en amont. Et les autorités chinoises ont donc décidé d'ouvrir les vannes en aval au maximum, provoquant des cataractes vraiment impressionnantes. Je vous mettrai les vidéos sur le site de la revue de presse. Mais toute impressionnante soit-elle, ces gerbes d'eau qui sont sorties donc depuis hier du barrage, nous explique Asia Today, ne permettent qu'un débit de 45 000 mètres cubes d'eau à la seconde, soit beaucoup moins que ce qui continue de s'accumuler au-dessus du barrage. Pékin se veut rassurant sur la capacité de l'ouvrage d'art à encaisser cette situation record, mais le Guardian lui évoque une vraie anxiété qui monte dans toute la région à mesure que monte également la cote d'alerte du barrage. Si une brèche devait s'ouvrir dans le barrage géant, les conséquences pourraient être colossales sur tout l'aval du fleuve Yangtze, une région très riche, très densément peuplée, où l'on trouve notamment la ville désormais bien connue de Wuhan.
Ah oui,